France Inter.
Bonne soirée avec nous sur France Inter, il est 19h. Hélène Philly pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Démoder la fast fashion, l'Assemblée a voté pour limiter l'impact environnemental de cette mode jetable. L'interdiction de la publicité pour la vente de vêtements à prix cassé, notamment. Premier débat, premières escarmouches à 3 mois des européennes entre 8 têtes de liste. Jordan Bardella, grand absent et des échanges tendus, vous l'entendrez. L'actualité, c'est aussi Stéphane Plaza. Il sera jugé pour violence conjugale. La fusée Starship d'Elon Musk, 3e essai raté. Nous sommes en Corrèze, où un centre de santé ferme en raison de manquements graves aux règles d'hygiène. À Metz, où la CGT craint la suppression de 900 emplois chez Stellantis. Et puis Kylian Mbappé participera-t-il aux Jeux Olympiques à Paris en juillet prochain? C'est vraiment pas évident. Juste après ce journal, au téléphone sonne la santé mentale des jeunes. Vos questions, vos témoignages. 01 45 24 7000.
France Inter.
Les Français ont doublé leur consommation de vêtements en 20 ans et les portent de moins en moins longtemps. C'est la fast fashion, la mode jetable ou le vertige de la surconsommation. L'Assemblée a donc décidé de sévir et vient de voter toute une série de mesures. Bonsoir Luc Chemla.
Bonsoir.
Quelles mesures et que vont-elles changer?
Alors déjà, il va y avoir une pénalité pour les entreprises qui ne produisent pas de manière vertueuse. Le montant sera fixé prochainement par décret, mais cette sanction pourrait être de 10 euros par produit. La deuxième grande mesure concerne la pub et elle est détaillée par Anne-Cécile Violent, députée Horizon et porteuse du texte.
Il ne sera plus possible de pouvoir faire de la publicité pour cette fast fashion avec des sanctions vraiment conséquentes qui seront prévues pour les médias qui feront cette publicité.
Mais ce n'est pas tout, il va aussi y avoir désormais de la sensibilisation.
Très concrètement, c'est que sur les sites d'ultra fast fashion, il y a un bandeau qui va apparaître avec une mention qui dira « Eh bien là, on a un impact environnemental quand on achète un produit issu de cette industrie ».
Une industrie qui sature le marché par des vêtements peu coûteux, constamment renouvelés, massivement importés. Les mesures votées à l'unanimité aujourd'hui sont un vrai signal envoyé, se félicitent plusieurs députés, notamment de gauche, même si certains ont émis quelques réserves. Malgré la satisfaction, la députée insoumise Alma Dufour craint l'examen du texte par les sénateurs et fait déjà passer un message.
Je vous donne rendez-vous en deuxième lecture si jamais il détricote le texte, et malheureusement c'est à craindre. Restons vigilants. Les acteurs du Made in France méritent mieux que des promesses qui ne seront pas tenues. Et la jeunesse de ce pays a besoin de croire que nous sommes engagés dans la véritable voie de la transition écologique.
La porteuse du texte met-elle en avant la collaboration entre députés de tous bords pour l'écriture de la proposition de loi et elle l'assure. Horizon marque peut-être là un symbole de travail transpartisan.
Et l'Afrique ne doit plus être la poubelle de la fast fashion. C'est ce qu'assume le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui va porter l'idée au niveau européen d'interdire l'exportation de vêtements usagés, plus de 5 millions de tonnes de déchets chaque année, qu'il nous faut retraiter nous-mêmes, dit le ministre, pour prendre conscience de son impact environnemental. Je me tourne à présent vers vous, Célia Kiré. Bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Pour la bonne nouvelle en matière d'environnement, aujourd'hui, le niveau des nappes phréatiques, on va voir que la situation est encore contrastée, mais globalement, elle est bien meilleure que l'année dernière à la même période.
Oui, 9% des nappes sont à sec. Il y en avait plus de 20% l'an dernier en mars. La recharge des nappes est en cours, notamment à l'ouest de la France, de la Bretagne aux Pyrénées-Atlantiques. Globalement, la moitié des nappes sont au-dessus des normales, un tiers seulement à un niveau critique. Le tableau est plutôt optimiste, mais la situation reste contrastée. D'un côté, au nord de la Loire, certaines nappes risquent même de déborder. Autour de Nantes, par exemple, en Loire-Atlantique ou dans les Deux-Sèvres, il y a des points hauts. De l'autre, dans le Languedoc-Roussillon, la situation est pire que l'an dernier. Une absence totale de recharge, bilan pas terrible non plus dans la Lozère, l'Aveyron, le Gard. Il n'a pas assez plu dans le sud de l'Alsace, le couloir de la Saône et le sud du Massif central. Le BRGM craint à nouveau une sécheresse cet été dans le sud et des remontées d'eau salée dans les nappes, ce qui a des conséquences pour les vignes et l'agriculture. Et globalement, le BRGM reste prudent. Si les températures sont élevées en avril, en mai, il y a un risque d'évaporation et d'assèchement. La France n'est pas à l'abri de nouvelles restrictions d'eau.
Et en Espagne, la région de Barcelone, on le sait, fait face à une sécheresse critique. Des mesures de rationnement drastiques sont envisagées pour cet été, sans limiter l'activité touristique. Toutefois, disait ce midi la déléguée du gouvernement catalan en France, France sur Inter, invité du 13-14 à réécouter sur le site de France Inter.
À moins de 3 mois du scrutin, voici donc le premier débat entre têtes de liste pour les européennes.
Diffusé sur Public Sénat et toutes les têtes de liste invitées ont répondu présentes, sauf Jordan Bardella pour le Rassemblement National, celui que les sondeurs placent largement en tête des intentions de vote. C'est le russophile Thierry Mariani qui le représente. Bonsoir Claire Flochel.
Bonsoir.
Et ses adversaires l'ont bien pointé.
Oui, l'eurodéputé Thierry Mariani qui représente le RN en l'absence de Jordan Bardella était le premier interrogé sur la question de l'aide à l'Ukraine. Alors que le RN, rappelons-le, s'est abstenu mardi à l'Assemblée lors du vote sur l'accord bilatéral franco-ukrainien, compte tenu de ses positions pro-Kremlin assumées ces dernières années, y compris après l'annexion de la Crimée en 2014, Thierry Mariani a essayé de se défendre, affirmant que la ligne du Rassemblement national était d'éviter l'escalade et de soutenir l'Ukraine, coupée par la tête de liste écologiste Marie Toussaint.
Notre position aujourd'hui, c'est d'éviter l'escalade. C'est d'éviter l'escalade.
Vous avez été aider Poutine sur le terrain.
Monsieur Mariani, vous l'avez
aidé à surveiller les élections fantoches. Vous avez pris de l'argent, Monsieur Poutine, Monsieur Mariani ? Expliquez-nous.
Faites attention si vous faites des accusations. C'est une accusation, c'est une question.
Je vous pose une question, Monsieur Mariani.
C'est une question, alors vous connaissez la réponse.
Puis le candidat du PS Place Publique, Raphaël Glucksmann, a accusé l'eurodéputé RN d'être sur la liste noire du Parlement, disant qu'il avait hésité à venir participer à ce débat.
C'est pour ça que j'ai hésité, moi, à venir ce soir. J'ai hésité à venir ici. Parce que, en tant que président de la commission spéciale sur les ingérences étrangères, se retrouver face au petit télégraphiste du Kremlin.
Le petit télégraphiste du Kremlin, voilà pour le mauvais quart d'heure passé par Thierry Mariani. Le tout premier débat télévisé des élections européennes touche à sa fin désormais sur Public Sénat, avec un plateau qui a été délocalisé au Parlement européen à Strasbourg à 3 mois du scrutin.
L'Ukraine dont il a été question dans ce débat et à l'OTAN aujourd'hui. Le moment est critique, met en garde le secrétaire général Jens Stoltenberg. Et si les alliés ne donnent pas plus de munitions, les conséquences, dit-il, seront graves.
L'Ukraine a besoin d'un soutien encore plus important. Et ils en ont besoin maintenant. Les Ukrainiens ne manquent pas de courage. Ils manquent de munitions. Ensemble, nous avons la capacité de fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin. Nous devons maintenant montrer la volonté politique d'y parvenir. Chaque jour de retard a de réelles conséquences sur le champ de bataille en Ukraine. C'est donc un moment critique. Et ce serait une grave erreur historique que de permettre à Poutine de l'emporter. Nous ne pouvons pas permettre aux dirigeants autoritaires d'obtenir ce qu'ils veulent en recourant à la force. Ce serait dangereux pour nous tous.
Jens Stoltenberg, traduit par Bruno Duvic, juge aussi que l'élection présidentielle ce week-end en Russie ne sera ni libre ni juste. Le parquet de Moscou met justement en garde ce soir contre toute action de protestation. Pendant le scrutin, la veuve d'Alexei Navalny avait lancé un appel au rassemblement de ses soutiens dans les bureaux de vote. Quelle posture désormais vis-à-vis de la Russie? Emmanuel Macron va s'expliquer devant les Français ce soir dans les journaux de TF1 et de France 2 sur les enjeux du soutien à l'Ukraine.
Stéphane Plaza va être jugé pour violence conjugale.
L'agent immobilier, animateur de M6, est sorti du tribunal judiciaire avec une convocation pour l'été prochain devant le tribunal correctionnel de Paris. Bonsoir Delphine.
Bonsoir.
Deux de ses ex-compagnes ont porté plainte.
Oui, pour violence physique et psychologique entre 2018 et 2022. Humiliation, menace de mort, parfois un doigt cassé pour l'une des plaignantes, plus de 8 jours d'incapacité de travail pour chacune. C'est Mediapart qui a révélé l'affaire en septembre. Les deux ex-compagnes ont porté plainte quelques jours plus tard. Elles ont été confrontées hier à Stéphane Plaza lors de cette garde à vue qui a duré près de 48 heures au commissariat central de Paris. Des confrontations difficiles, selon une source proche du dossier. L'animateur télé et agent immobilier a nié en bloc toutes les accusations, parlé d'accident. Il a donc été présenté à un magistrat du parquet en début d'après-midi qui lui a notifié cette convocation devant la justice pour violence par concubin sur ces deux femmes. Un procès public, ce sera cet été. D'ici là, Stéphane Plaza est placé sous contrôle judiciaire. Il a interdiction d'entrer en contact avec les plaignantes. Le juge de la détention et des libertés a également prononcé une obligation de soins. Reste à savoir maintenant quelle position va adopter le groupe M6 qui soutient pour l'instant son animateur phare.
3 nouvelles mises en examen dans l'enquête sur la mort du jeune Thomas poignardé lors d'un bal de village à Créteil. Crépol dans la Drôme. Information de France Bleu Drôme Ardèche. Des mises en examen pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Les déboires n'en finissent pas pour Amélie Oudéa Castéra. La ministre des Sports est finalement mise en examen pour diffamation envers Noël Le Graët après l'audit accablant qui avait conduit l'ex-patron du foot français à la démission. C'est Nicole Belloubet qui l'avait remplacée à l'Éducation nationale. Après la polémique sur la scolarisation de ses enfants dans le privé, Nicole Belloubet, qui a introduit de la souplesse dans la mise en place des groupes de niveau au collège, souhaité par Gabriel Attal, mais qu'on ne les croit pas enterrés, le Premier ministre a emmené sa ministre dans un collège de Chartres aujourd'hui pour redire que ce serait la règle, pas plus de 10 semaines en classe entière par an. Marie Mollet sur place.
Déminer ces groupes de niveau, j'y crois très profondément.
Déminer,
ce n'est évidemment pas une condamnation ou un stigmate, et on pourra bien sûr évoluer d'un groupe à l'autre.
Gabriel Attal n'est plus ministre de l'Éducation, et pourtant, aujourd'hui depuis Chartres, il a ressuscité un format que lui avait inventé, la visioconférence en ligne avec 10 000 chefs d'établissement qui ont, une fois encore, ne l'ont pas ménagé. Non à l'instauration des groupes de niveau, la souplesse évoquée est trop cadenassée.
La profession est à bout. Mettre ses cadres dans une telle situation relève de la maltraitance institutionnelle.
Aussi, la confiance doit être de mise, et non la dictée de méthodes imposées qui viennent fracasser l'accompagnement de parcours dont les besoins sont multiples.
La ministre Nicole Belloubet, elle, tente un langage moins urticant pour les chefs d'établissement.
Je ne peux pas, de la rue de Grenelle, vous répondre par un modèle unique. Vous apprécierez, vous, comment vous pouvez constituer les groupes. Jamais je ne vous ferai défaut.
Mais à la sortie, les deux le jurent, n'y voyez surtout pas une différence de vue entre eux.
Je pense que, honnêtement, on est assez raccord sur, évidemment, la mesure.
Mais si ce n'était pas clair, le Premier ministre l'affirme ce soir, notre rôle est de prendre des décisions, même quand les syndicats y sont parfois opposés.
Marie Mollet avec Raymond Albouille. Et puis c'était très attendu par les 40 000 étudiants ultramarins qui viennent faire leurs études dans l'Hexagone parce qu'il n'y a pas les filières qu'ils souhaitent localement. Ils bénéficieront tous de la prise en charge d'un billet aller-retour par an pour rentrer chez eux et plus seulement les boursiers. En Corrèze, plus de 1000 patients se retrouvent sans centre de santé. Le centre Asclepiade de Brest Rive, fermé par l'Agence régionale de santé en raison de graves manquements à la qualité et à la sécurité des soins. Pierre Frasiac, France Bleu Limousin.
Près de 1200 patients qui venaient voir un dentiste ou un médecin sont concernés et parmi eux, plus de 300 se retrouvent sans médecin traitant. L'ARS leur assure une attention particulière pour garantir la continuité de la prise en charge. Cette fermeture, c'est une décision difficile mais inéluctable au vu des manquements aux règles d'hygiène constatées sur place. La sécurité des patients n'était tout bonnement plus assurée, à tel point qu'ils sont exposés au risque de transmission de l'hépatite B, de l'hépatite C et même du VIH, le virus du sida. Alors pas de panique, le risque infectieux reste faible, mais l'ARS appelle quand même 1100 patients qui ont reçu des soins dentaires dans le cabinet à se faire dépister. Pour cela, il faut passer par un médecin traitant ou aller directement au centre de dépistage de l'hôpital de Brive. Tous les patients reçoivent un courrier avec les modalités à suivre et l'ARS va même payer les dépistages pour les plus pauvres qui n'ont pas de mutuelle.
Les salariés en arrêt maladie auront désormais droit d'acquérir des congés payés jusqu'à 4 semaines sur une année. Le Conseil d'État vient de le confirmer. Des craintes pour l'emploi à Metz dans l'usine Stellantis qui fabrique des boîtes de vitesse. Le constructeur va arrêter de produire deux modèles et la CGT redoute que cela menace pas moins de 900 emplois. Thomas Lavaux.
De production délocalisée, il n'en resterait donc plus qu'une à Metz-Borny selon la CGT. Et difficile d'imaginer l'usine et ses 900 postes maintenus pour une seule boîte, explique Fabrice Jamard, délégué central chez Stellantis.
Le DRH du site n'a pas hésité à dire que ça allait fermer, mais qu'il ne savait pas la date. C'est la volonté de PSA, de Stellantis, de délocaliser toutes les productions du thermique. Et de toute façon, ils font ça sur tous les sites.
Cette délocalisation entraîne la suppression de 230 postes, pas de licenciement sec. Les salariés sont invités à anticiper leur retraite ou rejoindre les deux co-entreprises de Stellantis tournées vers l'électrique à Metz-Borny et à Trémery, à quelques kilomètres. 500 collaborateurs ont déjà été transférés ou bien formés, selon le constructeur. Mais ces deux co-entreprises ne pourront absorber tous les emplois menacés, rajoute Fabrice Jamard.
La direction, à chaque fois, sort la transition énergétique, mais il n'y a aucune transition énergétique quand les boîtes de vitesse vont être faites ailleurs, en Italie, donc en Europe. Et c'est une politique de Stellantis, à chaque fois ils sortent, ils vont investir des millions d'euros et au dernier moment, ils investissent plus et puis ils ferment les usines.
Fin 2023, Stellantis avait pourtant annoncé vouloir investir 60 millions d'euros sur son site Messin.
Thomas Lavaux, France Bleu, Lorraine Nord.
La troisième fois n'était toujours pas la bonne pour la fusée Starship d'Elon Musk.
Après deux premières tentatives en avril et en novembre dernier et deux fusées qui finissent en mille morceaux, cette fois, ça devait marcher. Décollage de l'extrême sud du Texas pour une mise en orbite autour de la Terre. La NASA regarde ça de près car elle compte sur l'engin pour ses futures missions lunaires. 120 mètres de haut, c'est la fusée la plus haute du monde. Mais encore une fois, tout s'est gâté après le décollage, Sophie Bécherel.
Oui, dans un premier temps, plusieurs objectifs ont été remplis. Les 33 moteurs du premier étage de la fusée se sont correctement allumés. Il s'agissait d'arracher à la gravité terrestre 500 tonnes, deux fois plus que la fusée d'Apollo, et ça a marché un point. Ensuite, ce premier étage était supposé faire demi-tour pour mimer un retour à la base, comme les petites fusées de SpaceX. Car vous le savez, c'est la grande force d'Elon Musk qui a inventé le réutilisable. Cette fois-ci, l'étage ne retournait pas sur Terre, mais dans l'eau. Sauf que cela a fonctionné jusqu'au dernier moment où les moteurs censés le ralentir ne se sont pas allumés. Plat monumental, un retour brutal et un raté donc. Pendant ce temps-là, le deuxième étage, le vaisseau Starship lui-même, a poursuivi son vol vers l'espace. C'est lui qui transportera les astronautes. Puis il a entamé son demi-tour pour finir dans l'océan Indien. Il s'agissait de tester son bouclier thermique notamment. Sauf qu'au-dessus de la Réunion, on a aperçu un plasma rouge, puis plus rien, il s'est probablement désintégré. En résumé, selon les experts, il y a eu dans ce troisième test des progrès, mais la route est encore longue avant de poser une femme sur la Lune. C'est prévu, vous vous en souvenez, en 2026.
Merci beaucoup Sophie Bécherel. Après Vincent Bolloré hier, c'est Cyril Hanouna qui a répondu aux questions de la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT. L'animateur habitué des dérapages en plateau estime qu'au regard des 5000 heures de direct, il s'en sort bien. Il ne voit que de l'acharnement contre ses émissions. Les polémiques, dit-il, ça ne représente que 0,1% de son temps d'antenne. Le football, nous sommes à 3 mois du début de l'Euro en Allemagne et Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, vient de donner le nom des joueurs qu'il convoque pour la dernière préparation. Kylian Mbappé en net, évidemment. Lui qui aimerait aussi participer aux Jeux Olympiques à Paris l'été prochain. Mais là, sa présence commence à tenir du fantasme, Julien Froment.
Kylian Mbappé au Stade Vélodrome avec le maillot de l'équipe de France le 24 juillet prochain lors du match d'ouverture du tournoi olympique. Un rêve pour les supporters français, un casse-tête pour le sélectionneur national Thierry Henry. Ce tournoi olympique ne fait pas partie des dates FIFA. En clair, les clubs n'ont aucune obligation de libérer leurs joueurs. Thierry Henry sait qu'il n'a aucune prise sur ce dossier.
La décision vient du club, quoi qu'il arrive. Je ne dis pas que ça va être pareil pour tout le monde ou c'est ça pour Kylian ou pas. Tu n'as pas de carte dans tes mains. Est-ce que les équipes à l'étranger sont là pour penser à nous et à nos Jeux Olympiques? Non, ils pensent à leur club et leurs joueurs, donc la décision est malheureusement dans les mains du club.
Et puis l'autre problème, c'est le timing, selon le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.
C'est très difficile sur un plan psychologique et sur un plan physique de pouvoir enchaîner deux compétitions comme ça en été, sans avoir eu de vacances. Il y a un championnat qui va commencer aussi juste derrière.
Et Didier Deschamps de rappeler que cet été, l'Euro reste la priorité de l'équipe de France et donc de Kylian Mbappé, l'attaquant des Bleus qui n'est pas le seul concerné par ce dilemme. Antoine Griezmann et Olivier Giroud ont eux aussi fait acte de candidature pour les Jeux Olympiques.
Voilà, les deux prochains matchs amicaux des Bleus en vue de l'Euro, c'est contre l'Allemagne le 23 mars et contre le Chili 3 jours plus tard à Marseille. L'OM qui joue en ce moment le 8e de finale retour de Ligue Europa face à Villarreal après avoir gagné 4-0 à l'aller. Villarreal qui vient d'ouvrir le score 1-0. Le foot, c'est aussi ce maillot. Hommage choisi par les Belges pour l'Euro. Un maillot bleu ciel à col blanc comme le héros de RG, évidemment. Tintin, c'est le clin d'œil. Et pour parfaire la ressemblance, ils avaient effectivement, dans la tenue présentée aujourd'hui, choisi de faire porter aux joueurs un short marron qui allait très bien avec.
Il paraît qu'ils auront tous un chien blanc aussi. Enfin, pas bien compris pourquoi.
C'est bien, je vous remercie beaucoup. Allez, un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur Euromaster.fr.
Élodie Calac, le retour d'un temps perturbé.
Oui, après une parenthèse appréciable, hein, on a des pluies qui arrivent déjà par la Bretagne et qui vont glisser ce soir et cette nuit vers l'Aquitaine, le centre-val de Loire, le bassin parisien, le nord de la Seine. Demain matin, on les retrouvera de la Vendée et du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers les frontières du nord et du nord-est. Ailleurs, pas mal de nuages, des averses. Et puis, ce sera quand même ensoleillé entre la Méditerranée et les Alpes avec des passages nuageux plus nombreux vers le Languedoc, vers l'est de la Corse. Il fera très doux, hein, demain matin, 7 à 12 degrés le plus souvent.
Et l'après-midi, de la douceur aussi.
Oui, alors Alors, quelques degrés de moins qu'aujourd'hui malgré tout, mais tout de même, 13 degrés à Cherbourg, 15 à Lille, à La Rochelle, 16 degrés à Paris, Rennes, Nancy, 17 à Bourges, Dijon et Ajaccio, 18 degrés à Bordeaux, 19 à Lyon, Nîmes, Toulouse, 21 à Perpignan. On aura du soleil autour de la Méditerranée demain après-midi. Du sud de l'Aquitaine au sud des Alpes, quelques averses, mais des éclaircies plutôt belles, comme sur le nord de la Bretagne et le Cotentin. En revanche, ailleurs, des averses fréquentes, parfois accompagnées d'orages avec du vent et de la neige, mais au-dessus de 2000 mètres seulement.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.